1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix
plus claire? Good morning, Vietnam!
Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
On a un peu dans le studio, on la joue, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. Chaque fois, je commence à m'enfermer.
C'est cool, ça va arriver les voisins.
Bonjour à tous, vous êtes sur PFM 99.9 en compagnie des Décadrés, animés bien sûr par Benjamin.
Oui, bonjour.
Oh, il est là, il a une voix sensuelle aujourd'hui.
Oh, je suis pas sûr.
Antoine.
Oui, bonjour.
Ah, oui, il a une voix sensuelle, coquin.
Bah, c'est pour la 30e émission.
Ah, oui. Et oui, on vous l'annonce, c'est notre 30e émission, donc certes, ça peut pas paraître hyper folichon, mais pour nous, ça nous fait du plaisir.
Bah ouais, 30 quand émissions, même. Ça se fête.
Bah ouais, un peu quand même,
happy
un peu beaucoup.
Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
Et heureusement qu'on fait pas une émission autour de la musique, sinon on serait pas dans la merde. Et pour enchaîner sur cette folle chanson d'Happy Birthday, on va se relancer sur une petite musique que l'on adore dans cette émission,
oh oui.
La fameuse musique des news.
Et ben, aujourd'hui, on a du lourd, du très lourd. Enfin non, enfin, comme d'hab, on a des infos et puis c'est tout. Bon, on commence par les contes de la crypte. Qui se souvient de cette série d'anthologies, donc soit des histoires individuelles à chaque épisode, présentées par un cadavre desséché qui ne manquait pas d'humour noir? Qui se souvient à quel point la série, telle la quatrième dimension, était renommée et classieuse au point d'attirer de nombreuses stars hollywoodiennes? Joe Pesci, Dan Aykroyd, Christopher Reeves, Martin Sheen, Kirk Douglas, entre autres, qui ont interprété des rôles principaux dans les épisodes. Et enfin, qui se souvient du fait que les épisodes étaient réalisés par de très grands cinéastes tels que William Friedkin et Robert Zemeckis, et d'autres grandes figures du cinéma qui voulaient s'essayer à la réalisation tels que Tom Hanks, Arnold Schwarzenegger,
oui,
Michael J. Fox. Ça y est, on se remémore quelques images fortes,
ouais.
Des images angoissantes et surtout des images déjantées.
Ouais.
Bon, et bien devinez quoi?
Quoi?
Bah,
quoi
tu vois,
attends, on peut la refaire si tu veux.
Et on va la refaire. Et bien devinez quoi?
Quoi?
Wow! M. Night Shyamalan donc, va relancer l'ancienne série phare qui était produite et diffusée chez HBO.
Ouais.
Donc pour la chaîne câblée américaine TNT. Je vais dire TNT, mais TNT c'est mieux. Oui, le réalisateur des formidables Signes, Sixième Sens et Incassable, et des autres...
Le Village.
After Earth. Va produire la nouvelle série des Contes de la Crypte. On devrait avoir des épisodes adaptés des célèbres comics terrifiants et bizarres de ces comics et des épisodes originaux. Donc la série devrait compter 10 épisodes et pour la première saison, enfin pour la première saison, on suppose, ou alors peut-être que ce sera une mini-série, grande question. Alors on ne sait pas si l'on aura de grands noms qui viendront s'associer à celle-ci, comme à l'époque de la première. Et enfin, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année 2017. Voilà.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Voilà.
Oui.
Concernant Shyamalan, on découvrira bientôt son thriller Split. Ce qui suit un schizophrène interprété par James McAvoy.
Oui, il a l'air énorme ce film.
Ah ouais. Donc Kevin a 24 personnalités en lui.
Ce qui est pas peu hein, quand même.
Ouais, c'est vrai. Et justement, victime des autres personnalités qui sont en lui et qui sont assez obscures, il est contraint de kidnapper 3 adolescentes et il devra faire face à ses autres lui. Sorti en France, prévu le 22 février 2017.
Vivement.
Oui. Ensuite, enfin, The Last of Us, le fameux jeu de Naughty Dog,
oui.
D'ailleurs chroniqué par Antoine lors d'une de nos premières émissions,
c'est vrai.
Va connaître sa suite. Sony a exposé ce week-end pendant le PlayStation Experience 2016, j'avais envie de le dire en anglais, mais j'ai préféré ne pas le dire. Ses futures nouveautés. Et parmi celles-ci, on trouve The Last of Us 2, dévoilé par un somptueux et tortueux trailer, annonçant une nouvelle aventure pour Joël et Ellie, donc il y a maintenant 19 ans, je crois.
C'est ça, ouais,
bien
je crois.
Plus sombre et surtout bien plus mélancolique que la première. Donc une œuvre nouvelle, il y a une nouvelle aussi sortie, signée Naughty Dog, qui a été dévoilée, celle de Crash Bandicoot.
Oui,
oui.
Donc le marsupial orangé aura droit à une réédition de sa trilogie qui sera grandement retravaillée graphiquement. Gameblog parle d'un boost graphique et d'après ce qu'on a vu visuellement c'est très beau. Niveau gameplay rien n'a changé, on est dans du jeu de plateforme, on saute sur des caisses, on progresse et bien sûr on est poursuivi lors des séquences inspirées par les aventuriers de l'âge perdu et du coup bah surtout il faut courir. Le jeu devrait sortir sur PS4 dans le courant de l'année 2017 et pour terminer ces news on vous laisse sur l'intro des Contes de la Crypte composée par Danny Elfman.
Thank you.
Et vous êtes toujours sur PFM 99.9 en compagnie des Décadrés. Et on vient de finir avec cette petite musique des Contes de la Crypte qui fait bien plaisir. Et pour cette 30e émission, nous avons le plaisir d'accueillir dès maintenant Antoine.
Antoine.
Oui.
Mesdames et messieurs, si vous avez des enfants qui écoutent la radio à cette heure-ci, merci de leur boucher les oreilles parce que ce midi, ça va être... hot. Mais non, je déconne. Mais non, bah, vous inquiétez pas, ça va pas du tout être hot. Par contre, effectivement, nous allons parler d'un film qui n'est pas à laisser à la portée des enfants, bien entendu. Mais n'ayez crainte, chers auditeurs, rien de vulgaire ou d'obscène dans cette chronique. Juste l'histoire d'une personne ou plutôt d'un personnage qui a été hissé au rang de superstar pornographique dans les années 70. J'ai nommé la susnommée Lady Loveless. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lady Loveless, de son vrai nom Linda Bauman, est une ancienne actrice du circuit pornographique qui a principalement tourné dans un film qui se nomme Deep Throat. Alors Deep Throat, ça veut dire quoi? Ça veut dire...
Je sais. Tu peux le dire Benjamin, vas-y.
Gorge profonde.
Exactement. Alors non, je vous rassure chers auditeurs, je n'ai pas passé ma semaine à me faire et à refaire le film Gorge profonde pour vous faire plaisir. Et non, ce n'est pas de ce film dont je vais vous parler. Alors s'il vous plaît, ne changez pas de station, restez sur PFM, restez avec les Décadrés, je vous en supplie.
S'il vous plaît.
Ne partez pas. Le film dont je vais vous parler s'appelle très sobrement Lovelace et va retracer la vie de l'actrice Linda Bauman, sa relation tumultueuse avec son mari et manager de l'époque Chuck Traynor, et enfin l'émancipation de celle-ci, par la suite qui deviendra l'une des plus grandes militantes anti-porno de sa génération. On retrouve à la réalisation du film Rob Epstein et Jeffrey Friedman. Alors les deux hommes sont habitués à collaborer ensemble parce qu'on dort également le film Howl, qui relate la vie du poète américain et fondateur de la Beat Generation Allen Ginsberg. Et au casting, on retrouve dans le rôle de la Lady Amanda Seyfried. Alors Amanda Seyfried, que vous avez sûrement vu dans le film Ted 2,
oui.
Dans Pan, dans Albert à l'Ouest, dans Lolita malgré
Jupiter.
Moi aussi.
C'était elle ?
Non, c'est Mila Kunis dans Jupiter.
Oh là là.
Et dans le rôle de Chuck Traynor, nous avons Peter Sagard. Alors moi, que je connais surtout pour son rôle de Raoul dans L'Homme Masque de Fer.
C'est Skarsgård ou ça
Skarsgård.
Ah, ouais.
Et il joue aussi dans Les 7 Mercenaires.
Oui.
Voilà.
Que j'ai toujours pas vu.
Que j'ai vu.
Moi non plus.
Voilà. Voilà, moi je l'ai vu. Alors également mention spéciale aussi à notre petit chouchou chez les Décadrés, un acteur qu'on aime beaucoup.
Moi.
Non. le dénommé James Franco qui a un tout petit rôle. Alors il a un tout petit rôle dans le film. On le voit pas longtemps, mais James Franco toujours bien mis en avant, super beau, super acteur. Voilà, rien à redire. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce film? Vous devez vous poser la question. Eh bien, je ne saurais pas très bien vous expliquer pourquoi, chers auditeurs. Toujours est-il que la vue de ce film m'a pas mal chamboulé et propose également de montrer en partie les dessous du coulisses du film.
C'est très drôle les dessous.
Oui, je l'ai fait exprès. Hein. T'as remarqué, c'est une chronique tout en nuances et en subtilité. Hein. Alors, je vais pas vous spoiler sur le dénouement de l'intrigue, quoique si vous connaissez un peu l'histoire de Linda Bauman, ce dont je ne doute pas pour certains auditeurs, vous ne serez pas trop surpris, mais j'aimerais vous parler de la construction du film qui se fait en deux temps. Alors, dans un premier temps, nous avons la face de l'histoire, ce que nous semblons connaître, ce que nous connaissons du personnage et ce que la caméra accepte de nous montrer comme une version officielle de la vie de Linda Bauman, qui peu à peu va devenir donc Lady Lovelace. Alors, de sa rencontre avec son mari et manager Chuck Traynor, à son rôle dans le film Deep Throat et à son ascension en tant que superstar du porno. Ensuite, nous avons la face cachée, ce que nous entendons mais ne voyons pas, ce que nous supposons sans être sûr, l'horreur du tournage, le proxénétisme, la violence, les drogues. Il est intéressant de constater que le film se place du point de vue du personnage de Linda Bauman et pourtant nous ne voyons pas tout. Notre perception semble troublée par les paillettes et les projecteurs. Donc un film quand même brillamment porté par ses acteurs, même si la chronologie du scénario laisse paraître une certaine inégalité une fois à l'écran. Certains critiqueront le côté superficiel du film, même si personnellement je pense que cette superficialité sert aussi l'intérêt du film qui propose sa construction donc en deux temps, comme je vous le disais plus tôt. Et néanmoins, je trouve que c'est dommage que la descente aux enfers de l'actrice ne soit réellement traitée que dans la deuxième partie du film et pas dans la première. Alors pourtant, on ressent tout au long du film ce qui se passe à l'écran et sans pour autant être sûr. Mais étrangement, c'est cette construction qui nous montre entre guillemets la face cachée du porno et qui permet au film de nous chambouler. Voilà, petite présentation de ce film que j'ai trouvé bien sympathique et que je vous conseille, qui est un peu violent. Et on vous laisse sur un petit interlude musical composé de Stéphane Strask, qui a composé le morceau du film et qui a fait aussi le morceau de L'assistant du vampire.
Eh bien, merci Antoine pour cette chronique.
Je l'avais dit que ce magnifique. Serait hot. Hein.
Jouissive.
Ah bah oui. Ah, j'ai les glandes.
Et nous allons passer à une chronique surprise qui va faire des vagues. Oh. Par Ange.
Il est temps, chers amis, de revenir vers des productions qui savent prendre le pouvoir. Des productions qui s'imposent, qui ne se laissent pas marcher dessus. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film Disney. Et pas n'importe lequel.
Excusez-nous pour ce cynisme.
Et pas n'importe lequel, comme je disais. Il est pour moi celui qui a enfin détrôné la Reine des Neiges. Celui qui m'a enfin...
Wow.
Donc ouais, cette chanson entêtante que j'ai appris à détester à force de l'entendre, il s'agit du film sorti le mercredi 30 novembre, Vaiana. Donc pour vous résumer un peu l'histoire, un demi-dieu du nom de Maui a volé le cœur d'une déesse, répandant le chaos sur le monde petit à petit.
Maui, bien sûr.
Maui, Maui.
Allez, c'est parti.
On va continuer. Hein. Donc Maui se fait péter la tronche par un monstre de lave du nom de Teka et perd le cœur ainsi que son hameçon géant magique lui permettant d'avoir des pouvoirs de métamorphose. Donc, quelques années plus tard, une adolescente, suivant les conseils de sa grand-mère, décide de partir à la recherche de ce demi-dieu en compagnie de son coq débile Hehe, oui c'est le nom du coq, pour qu'il remette le cœur de la déesse à sa place et que tout rentre dans l'ordre. Et là, je ne vous dirai qu'une chose. Enfin, un film d'aventure Disney qui fait du bien. Enfin, un film Disney où le personnage féminin en impose et sait ce qu'elle veut faire. Enfin, elle ne sait pas vraiment comment le faire, mais elle sait ce qu'elle veut faire. Alors, je ne sais pas si ce sont les origines maoris du personnage qui ont fait d'elle un personnage qui en impose, mais au moins, ce n'est pas une petite princesse qui est victime de tout ce qui lui arrive. Gros changement, Vaiana n'est pas une princesse. Elle est la chef de son clan, ce qui est déjà pas mal. Donc, petit 2, toute sa famille est en vie. Enfin, on ne commence pas l'aventure avec la mort froide et déprimante.
Ou une gamine qui aurait plus ses parents, etc.
Oui, dans tous les cas, il y a la mort qui vient dans des Disney. Rappelez-vous Tarzan.
Rappelez-vous le Roi Lion.
Oui, rappelez-vous tout. Rappelez-vous la plupart des films Disney.
Du coup, je suis en train de chercher un Disney où il n'y a pas de mort en fait.
Cars.
C'est très compliqué.
Ah oui, dans Cars.
Bah, Cars, on voit pas les parents.
C'est pas un... mais dans Cars 3, il y a l'air d'avoir de la mort.
Dans le 3. Mais nous ne parlons pas du 3 encore, on ne l'a pas vu, il n'est pas encore sorti.
Voilà, c'est surtout ça.
Et enfin, petit 3, je reviens sur Vaiana. Comme je le disais, Vaiana en impose, elle décide d'aller contre la volonté de son père et de partir à l'aventure. Ce n'est pas souvent, on voit ici une femme forte qui part affronter le monde pour le sauver, et cela au mépris du danger. Une femme forte qui va aller chercher un mec pour qu'il assume ses conneries, qu'il répare tout. Pour une fois, le personnage masculin sert d'outil au bon déroulement de l'histoire, et non comme un sauveur. Donc certes, il ressemble à Flynn de Réponse, qui ne veut pas vraiment aider la princesse, mais là, on lui impose, et il n'a pas vraiment le choix de lui obéir. Parce qu'il a fait des sacrées conneries, ce petit con.
J'aime l'idée.
C'est quand même pas mal. Donc là, on est sur un gros girl power énorme qui nous change de tous les films de princesses. En ce qui concerne les chansons, bien sûr, il y en a. Mais bien dosées cette fois-ci, pas comme l'enchaînement qui est fait dans La Reine des Neiges. Et elles sont toutes bien rythmées, chantées convenablement, sans trop de superflu, bref, de trop de changements, trop haut, trop bas. Vas-y.
J'ai une question.
Attention.
Est-ce que la VF est bonne ?
La VF est très bonne. C'est Anthony Cavana qui fait la voix de Maui. Bah oui, le demi-dieu.
Parce que sur la VO, il me semble bon. Que c'est Dwayne Johnson qui
oui.
fait...
Je
pensais notamment aux chansons, parce qu'il paraît que c'était traduit un peu littéralement. Par
alors, je pense que c'est traduit littéralement, mais justement, c'est ce qui donne le charme au truc un peu typique, ancestral et tout. Mmh. Où en fait, j'ai trouvé, sincèrement, pour une fois dans un Disney, ils chantent pas forcément bien.
Ah, oui,
j'ai trouvé ça bien.
Que j'ai entendu.
La première chanson où le père en fait de Vaiana chante, il explique un peu son rôle dans le village. Et ben franchement, c'est vachement sympa parce que j'ai trouvé qu'il chantait pas hyper bien, que c'était pas un grand chanteur. Et franchement, ça passe et ça rentre très bien dans le thème.
Donc du coup, si vous aimez les dessins animés où les personnes savent pas chanter,
si, ils savent chanter, mais c'est pas du haut niveau où ça gueule dans tous les sens et que ça part sur des pointus énormes.
Si vous avez aimé Sweeney Todd, vous devriez aimer Vaiana.
Oui,
et là,
tout à fait.
Tous les fans de Johnny Depp vont vouloir me buter.
Ce qui est bien,
je chante
surtout...
pas si mal que ça, ouais, Johnny Depp. Hein.
Bah franchement, ça rentre dans le thème aussi. Hein. Je pense que niveau du chant, on est à peu près pareil. Ouais. Mais bon, ce qui est super bien aussi, c'est que c'est assez difficile d'en retenir qu'une seule.
D'accord.
Et les animateurs de Centre et de Colo remercieront Disney pour cela, même s'ils vont encore bouffer du libéré délivré pour longtemps. Donc l'humour est à mon goût parfaitement dosé du début jusqu'à la fin. Oui, j'ai ri aux éclats avec les enfants présents dans la salle, même s'il y en a un qui a chialé pendant toute la première partie du film. Donc comme toujours, nous avons le rôle comique tenu par le petit animal qui est le coq, et ça marche toujours, même quand c'est répétitif, et c'est ce qui est très bon. De plus, on retrouve un peu de l'inspiration d'Hercule avec Maui, ce qui fait plaisir à voir, étant donné qu'ils sont tous les deux des demi-dieux.
Ouais.
Donc là, on se rappelle des amphores dans Hercule, là c'est les tatouages de Maui sur son corps en fait.
Maui
représente toute son histoire. Ce qui est vachement cool. Et visuellement, c'est magnifique. On retrouve à peu de choses près la même esthétique que l'univers d'Arlo, en particulier pour la texture de l'eau, qui est tout bonnement réussie. Et ça fait du bien aux yeux. Donc je vous conseille fortement de voir ce film qui vous fera oublier La Reine des Neiges, je l'espère. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu une bonne aventure avec un humour bien dosé et des graphismes qui tiennent la route. Même si Big Hero reste à mon goût le meilleur Disney. Mais ce n'est pas du tout le même registre.
C'était un Marvel aussi en plus.
C'était Marvel.
C'était une association bizarre, ouais, Disney, Pixar. Marvel,
c'est un bordel pas possible.
Il était vraiment magnifique.
Il était génial, mais c'est pas du tout le même. Voilà, là c'est plus Vaiana, c'est plus toujours côté pour les filles vu que c'est une héroïne. Mais franchement, ils sont tous les deux en fait du même niveau, je dirais, à mon goût. Ils sont du même niveau, ils sont très bien. Donc sur ce, profitez bien de Vaiana, essayez de retrouver les références aux autres films Disney, dans celui-ci bien entendu. Et je vous laisse avec une petite musique qui n'est pas du tout tirée du film pour ne pas vous gâcher la surprise, mais qui reste dans le thème quand même.
Tangaroa, whakamauta.
Merci Ange pour cette chronique qui nous a fait voyager.
Oh oui.
Merci pour cette belle présentation, merci pour cette belle musique. Maintenant, nous allons passer à un autre sujet, à un autre réalisateur, un vidéaste français qui commence à être de plus en plus connu et qui, je dois le reconnaître, fait un travail fortement admirable. Mais je vais laisser Benjamin vous le présenter.
Donc je vais vous parler de Fabrice Mathieu. Donc ma chronique a pour titre...
C'est quoi son prénom ?
Fabrice.
c'est juste Fabrice. Ouais.
Donc ma chronique a pour titre « Une œuvre du et sur le cinéma ». Donc Fabrice Mathieu est un cinéphile artisan du cinéma formidable, je dois le reconnaître. Donc il est auteur de mashup aujourd'hui connu et hyper reconnu. Donc on a Darth by Darth West ou Vador aux trousses, qui est une réimagination de La mort aux trousses. Et... on a aussi, donc il est aussi auteur d'œuvres originales fortes telles que Dans l'ombre, qui est un court métrage qui suit une ombre qui va assassiner son portant, soit la personne qui était associée à cette ombre. Donc l'œuvre de Mathieu est constituée dans son essence par un élément, le travail du cinéma. En effet, le vidéaste use de sa cinéphilie pour emprunter des images ici et là, et dans un hommage absolu et subtil, leur donner une nouvelle vie. Donc quand je pense à Dans l'ombre, donc c'est un film noir qui emprunte des images à un grand nombre de films noirs.
Ouais.
Du moderne à de l'ancien, enfin ça peut être
ouais, c'est ça,
ça peut être de Sion Mac à Sin City.
Ouais, c'est ça, on passe d'époques différentes, d'univers différents, et en fait c'est vrai que c'est très intelligent de faire ce travail sur l'ombre parce que ça passe partout en fait.
C'est ça.
Ça lui permet d'exploiter toutes les possibilités en fait.
Bah,
même en termes de montage,
Dans l'ombre, les images ou photogrammes, comme on le dit, ne quittent pas leur genre d'origine, puisque ce sont des films noirs, et donc le film noir, le genre, qu'elles vont revigorer par leur propre nouvelle utilisation. Et pourtant, le vidéaste, va beaucoup plus loin en explosant certains cadres des genres lorsqu'il croise La mort aux trousses et Star Wars, on va pas se mentir. Et on pourrait d'abord penser le mashup comme un objet drôlement déjanté, et pourtant les deux films sont reliés par le genre de l'aventure et par des séquences emplies de suspense et d'action. Ainsi, la rencontre de Cary Grant avec des éléments de l'univers de George Lucas intégrées dans des images d'Hitchcock ne choque pas.
Non.
Au contraire, elle redonne une certaine envie, et même une double envie, celle de redécouvrir le film d'Hitchcock et les films de la Guerre des Étoiles.
Mais c'est fascinant, c'est un travail de composition d'images en fait.
Ah,
on est entre l'archivage, le documentaire et c'est très fort ce qu'il fait.
C'est une hybridation des films.
Ouais.
Et donc le travail de Fabrice Mathieu est donc véritablement cinéphile, dans le sens qu'il est composé, lancé et construit par la passion du vidéaste, et plus que cela, il vous donne l'envie d'aimer le cinéma et de le savourer à volonté. Il y a aussi une intelligence qu'on peut associer à bien d'autres artisans, artistes de mashup ou de montage vidéo, fictionnel ou non d'ailleurs. Ouais. Je pense à ceux d'Arte notamment.
Oui, ils avaient pas fait sur
les blow up.
Les blow up, voilà, c'est ça.
Non, c'est blow up.
Si c'est blow up.
Même il y a Johanna Vod notamment, c'est qui est une très grande artiste.
Non, ça n'a rien à voir avec Lovelace. Hein.
Ouais. Donc,
pas blowjob.
De montage vidéo ayant cette utilisation de récupération et de résurrection des images, il pense les images, les personnages, les motifs, les acteurs, les plans ou tout autre élément du cinéma en information, qui sont connectés, qui font partie d'un réseau ou de plusieurs réseaux, eux-mêmes connectés à d'autres réseaux. Ainsi, l'aventure est un genre, un motif, un suspense qui relie bien des films. Ou encore le suspense par Hitchcock fondera le brillant court-métrage de Fabrice Mathieu nommé Master of Suspense, qui met en scène, alors ça c'est assez génial, il met en scène Hitchcock qui voyage dans ses propres métrages.
D'accord.
Et qu'on nous présente comme étant l'auteur, le cerveau, l'acteur du suspense.
D'accord.
C'est-à-dire c'est lui le tueur de Psycho.
D'accord.
Ouais, et c'est assez drôle. C'est une manière de revisionner Hitchcock et de repenser de manière ludique le génie puis l'humour noir de ce grand monsieur. Donc à travers l'usage de la musique, à travers les plans ou encore la gestion de la promotion de ses films. Bah ouais, parce que Hitchcock il s'est beaucoup amusé à faire des clips promotionnels pour ses films et il a fait des caméos aussi.
C'est vrai. Ouais.
Et donc des éléments, donc les clips promo et les caméos, des éléments qui ont permis à Fabrice Mathieu de faire ce film étrange, amusant et intelligent. Et on terminera sur un extrait de son film Dans l'ombre, donc court métrage de 2011 qui dure 7 minutes. Je vous encourage franchement à voir.
Je pense qu'on le partagera en commentaire sur la page de Facebook des Décadrés.
Et même, franchement, je vous encourage à voir tous ces courts-métrages, que ce soit le mashup Indiana Jones et Star Wars, qui est assez drôle.
Il avait fait un cartoon aussi.
Oui,
un cartoon excellent, je ne sais plus le nom.
C'était complètement fou.
C'était complètement déjanté.
Alors, je vous encourage de toute façon à découvrir toute l'œuvre de Fabrice Mathieu. Donc il y a un formidable vidéaste qui est en plus d'une grande modestie, je pense qu'Antoine sera d'accord avec moi.
Je le connais pas personnellement, mais il fait un travail formidable et c'est et juste mais, valeur pour le reconnaître.
Non mais il aimait même quand on a pu lui parler ou
oui.
Même quand on voulait l'interviewer.
Je lui ai parlé directement.
Il était très sympathique et on a hâte de découvrir le long métrage inspiré de Dans l'ombre qui sera apparemment en projet. Et maintenant l'extrait.
J'aime la nuit. N'est-elle pas magique? D'un coup de baguette, elle change le monde. Elle ne le refait pas pour autant. La nuit, tous les portants sont gris, voire grisés pour certains. Les portants, curieuses créatures, je les connais bien. J'ai longtemps été porté. Enfant, le mien s'amusait à me piétiner. J'étais son ombre. Avec l'âge, ça ne s'est pas arrangé. Ainsi sont les portants, capables du meilleur dans le pire. Je suis devenu sa marionnette, esclave de tous ses faits et gestes. En tant que silhouette, je n'avais pas le choix. L'argent, le pouvoir, il lui en fallait toujours plus. Le règne, la puissance, mais pour la gloire, il pouvait repasser. Ses méthodes me répugnaient, mais que pouvais-je y faire? Toute résistance semblait vaine. Impuissant, j'assistais au grand nettoyage de printemps. Et sans l'ombre d'un doute, j'y contribuais. Imaginez mes cas de conscience. C'était devenu un vrai calvaire. Il avait franchi le point de non-retour et moi avec. Mes mains étaient toujours...
Alors donc c'était une présentation de Fabrice Mathieu. Et Ange, avant de nous quitter, tu as une petite nouvelle.
En fait, j'ai découvert ça juste avant de venir à l'enregistrement. Une web-série française qui est arrivée depuis quelques semaines sur YouTube, qui s'appelle Soupa Soupa. Donc ça s'écrit S-U-P-A. Et c'est juste l'histoire d'un gars qui tombe amoureux d'une fille en essayant de lui rendre son écharpe. Mmh. Il se découvre des super pouvoirs. Et tous ces super pouvoirs et ces petits enchaînements qui font son aventure sont faits en stop motion ou en dessin animé, ce qui rend un esthétique assez sympa. Ça ne parle pas, cherchez pas beaucoup de paroles, ça ne parle pas, mais en même temps c'est super drôle, c'est vachement sympa. Pour l'instant il y a 6 épisodes qui sont sortis, donc je vous encourage vivement à aller voir ça. Et le prochain épisode normalement devrait sortir le dimanche prochain, en fait tous les dimanches apparemment il y a un épisode qui sort. Donc voilà, juste une petite info comme ça de découverte française et vachement sympa à voir.
Merci Ange.
Mais de rien.
On se dit à la semaine prochaine.
Et bien sûr, la semaine prochaine, même heure, bonne humeur.
Eh oui.
Toujours.
Eh oui. Et bonne écoute.
Bonne écoute. Oui.
On espère que vous avez passé une bonne écoute.
Bah moi j'espère. Hein.
Bah moi aussi.
Surtout que j'étais hot.
Allez, à la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao, bonsoir.